Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Louis.
Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs ce matin. Vous savez, il y a des semaines où l'actualité vous tend un fil, un petit fil qui dépasse. Vous tirez dessus doucement et c'est tout le pull qui se défait. Cette semaine, le fil s'appelle Jack Lang. Et quand on tire dessus, c'est tout un système de protection, d'omerta, de complicité qui se révèle. Commençons par un simple fait. Jack Lang, Institut du monde arabe, affaire Epstein. Son nom apparaît dans les documents et là, stupeur. Même Alain Duhamel, grand défenseur des différents pouvoirs en place, lâche l'ancien ministre de la Culture.
C'est navrant, c'est un homme qui a été un ministre des Affaires culturelles absolument unique, incroyablement plus actif et imaginatif que tous les autres. Et ce qu'on apprend de lui en matière de comportement humain et pas politique... C'est lamentable.
Mmh. Et quand
donc je trouve ça lamentable.
Et quand on entend notamment...
Et je pense que il devrait quitter l'Institut du monde arabe en galopant.
Mmh. Et vous comprenez pas pourquoi...
Pas petit pas, en galopant.
En galopant.
Et puis qu'il aille dans un ermitage.
Alors, on sent le désarroi, on sent un certain malaise. Jack Lang a donc enfin démissionné la semaine dernière. Il aura fallu attendre des décennies avant qu'il ne quitte enfin son poste. Et honnêtement, quand on voit les échanges qu'il a pu avoir avec Epstein et sa défense laborieuse, le scénario était inévitable.
Il y a des mails qui posent question, vous allez pouvoir y répondre encore. Par exemple, le 28 janvier, un mail de Jeffrey Epstein au sujet qui est intitulé « Petit prince ». Il vous demande, je cite, « L'enfant doit-il être initié à la religion, aux nouvelles sexualités ?» Être testé, à quelle fréquence, test standardisé, exemple de projet, ça fait allusion à quoi, Jack Lang?
Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas. Je ne sais, je ne connais même pas ce mail dont vous me parlez.
Mais vous comprenez que ça, aujourd'hui...
Mais c'est possible, c'est possible, mais je ne suis pas chargé d'une instruction du dossier de M. Epstein. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous raconter des histoires, je ne sais pas.
Et si la justice était amenée française à s'y intéresser...
Mais qu'elle s'y intéresse.
Vous êtes prêt, évidemment, à les répondre
Je ne crains rien.
Détendu.
Je me sens blanc comme neige.
Un peu arrogant, hein.
Blanc comme neige, oui, exactement. Non, mais une défense presque aussi pathétique que celle de sa fille venue s'expliquer sur BFM sur ses relations avec Epstein après sa condamnation.
Je lui dis, c'est absolument dégueulasse ce que t'as fait, c'est immonde, comment t'as pu faire une chose pareille? Et il me répond, oui, c'est horrible, je le regrette amèrement, mais j'ai payé ma dette, j'ai été 13 mois en prison, j'ai indemnisé la victime et je me suis fait soigner. Et moi, je dis, bon, bah, très bien, dans la vie, quand on a payé sa dette à la société, et qu'on a indemnisé sa victime, et il a passé 13 mois en prison, on a droit à une seconde chance.
Mais le plus fascinant, c'est pas tant la défense pathétique, c'est les protections. Jacques Legros, ancien taulier du JT de 13h de TF1, raconte quelque chose d'hallucinant.
Le seul personnage politique dans 40 ans de carrière de présentateur de journaux qui a fait pression pour passer dans mon journal, le seul, c'est M. Jack Lang.
Ah bon, mais qu'est-ce qu'il a fait? Racontez-nous.
On m'a imposé de le recevoir dans le journal.
Ah bon? Ça balance.
Sur France Inter.
Mais parce qu'il... D'accord. Mais parce qu'il était... Oui. Mais attendez, mais il était ministre de la Culture à l'époque?
Il n'était plus ministre à l'époque.
D'accord.
Il rentrait de Chine.
Ah oui, et on vous a imposé Jack Lang. D'accord.
Oui.
Bon, on sent que vous...
C'est la seule fois de toute ma carrière.
Et vous avez su pourquoi?
Pourquoi directement et officiellement, non. D'accord. Mais c'est lui qui avait demandé.
Voilà, maintenant, remontons un peu dans le temps. 2011, Dominique Strauss-Kahn, le viol de Nafissa Toudialo. Deux jours après, qui retrouve-t-on pour défendre DSK? Eh bien, Jack Lang.
Bonsoir Jack Lang, merci d'être avec nous en direct car on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes, rappelons-le, un proche de DSK. Vous l'avez vu, je crois, lors de son dernier passage à Paris. Vous le souteniez pour les primaires. On ne sait pas s'il faut parler au passé. Comment réagissez-vous à ces derniers développements?
Je ne me prononce pas sur le dossier que je ne connais pas. Mais je ne peux pas ne pas constater que depuis deux jours, il y a comme une sorte d'acharnement, de lynchage contre Dominique Strauss-Kahn.
De la part de qui?
D'un côté, de la part du système juridictionnel américain et du système médiatique en général. Ne pas libérer alors qu'il n'y a pas mort d'homme. Ne pas libérer quelqu'un qui verse une caution importante, ça ne se fait pratiquement jamais.
Il n'y a pas mort d'homme, il y a, non, pas il y a juste un peu viol, mais
non, mais
ça
voilà,
va.
C'est pas grave, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est extraordinaire. La phrase en dit long, oui, ou de, voilà. La phrase en dit long sur la mentalité, sur ce qu'ils pensent vraiment, sur ce qui est acceptable pour eux. Et continuons à remonter un petit peu dans le temps. Les années 80, Jack Lang se livre à une diatribe magnifique sur le vivre ensemble.
Je crois qu'au contraire, c'est une grande chance pour nous tous que vous soyez là, qu'il y ait cet apport, à mon avis, très fécond de jeunes qui, précisément, pratiquent deux langues, vivent dans deux cultures. Et je pense qu'au fond, l'idéal, finalement, beaucoup d'entre vous représentent un idéal, l'idéal de ce qu'on appelle le métissage, du mélange des cultures. Naturellement, il y a des réflexes de peur, hein, comme dans toute société en crise. Alors il faut que chacun d'entre nous, vous, nous, tout le monde, lutte contre la peur et qu'on essaie d'expliquer au contraire à ceux qui ont peur, mais au contraire, c'est une chance formidable pour un pays comme la France que d'avoir des jeunes qui sont originaires d'autres civilisations, mais qui nous apportent leur manière de vivre, leur manière de penser, etc.
Voilà, la peur, toujours et encore la peur. Le projet était là, dès le début. Il savait ce qu'il faisait, et cette ligne mortifère n'aura pas dévié avec son grand âge, même s'il y a parfois quelques ratés. Comme ici, où il confond le philosophe Michel Foucault et l'animateur Jean-Pierre Foucault.
J'ai fini en bas de course, et on oublie de rappeler chaque fois que c'était Jean-Paul Sartre, Jean-Pierre Foucault, Roland Barthes, Catherine Dolto et je ne sais
qui d'autres. Des intellectuels.
Je crois que c'était Michel Foucault, hein, pas Jean-Pierre.
Oui.
Pardon.
Oui, oui, tout à fait. Le pauvre Jean-Pierre Foucault se retrouve soudain mêlé à cette question-là.
Ah, il confond avec qui veut gagner des millions, c'est
exactement.
Pas étonnant.
Bah, Jean-Pierre Foucault, si vous nous écoutez. Et derrière cette bourde, Jack Lang parlait de cette pétition qu'il avait signée il y a 50 ans, défendant les relations sexuelles entre adultes et enfants. Je laisse la parole à notre chroniqueur Arthur de Vatrigan qui, sur CNews, a trouvé les mots justes pour retracer le parcours plus que douteux de l'ancien ministre.
Petit retour en arrière. Nous sommes le 18 janvier 2021 sur Europe 1 et Sonia Mabrouk, dans un entretien remarquable, interroge Jack Lang. Et elle ose aborder des sujets qui, jusqu'à présent, étaient écartés à chaque fois que Jack, comme on l'appelle, s'approchait d'un micro. Et là, tout y passe. Il y a la relation avec Olivier Duhamel, parce qu'on est à l'époque de cette affaire, sa tribune pour décriminaliser la pédophilie et déjà l'affaire Epstein. Et alors là, Jack Lang, rappelez-vous, se fâche tout rouge. Sur Duhamel, il répond très sérieusement, je cite, « Je vis en dehors de tout ça, je ne participe pas des mondanités, ça m'est complètement étranger, cet entre-soi culturel, j'en suis très loin. » Alors moi, l'aplomb de ses jambes surprendra à chaque fois, mais c'est comme ça. Sur Epstein, il dit « Vous faites un mélange et un amalgame. » Bon, depuis quelques jours, l'amalgame s'amalgame encore plus et de manière assez étrange. Sur la tribune, là, en effet, c'est compliqué de se défendre. Alors il lâche, c'était il y a plus de 40 ans, une autre époque, on a écrit une connerie et basta. Alors, une autre époque, je ne vois pas que dans une seule famille française, depuis que l'aube apparaît chaque matin sur Terre, il y a une famille qui a considéré la pédophilie comme une option possible. Et le basta, c'est voilà comment Jack Lang balaye les enfants du choral et tous les autres. Dès qu'il y a une sale affaire qui sort depuis la moitié du XXe siècle, il y a toujours son nom qui apparaît. Lui, c'est la guigne qui le pourchasse, il y a des gens comme ça, ils ont la poisse, et pas qu'à Marrakech, et Jack Lang, c'est ça. Et le problème, c'est quand on se croit intouchable, ce qui sort, c'est généralement qu'un petit aperçu de l'œuvre entière.
Voilà, bref. En quelques mots, et comme le dit si bien Mathieu Bock-Côté, mais de façon beaucoup plus succincte.
Je me permettrais de dire, normalement, j'essaie de garder une certaine réserve. Mais franchement, bon débarras quand même. Je peux me permettre, bon débarras. On est sur le mode qu'il dégage, je n'en suis pas triste.
Voilà, au moins c'est clair. Mais Jack Lang n'est qu'un symptôme, un révélateur d'un système, un système beaucoup plus large, un système qui protège les puissants. Quel qu'il soit, notamment en ce qui concerne les enfants, les très jeunes enfants. Le journaliste Serge Garde nous explique comment ça marche dans le milieu médical.
Pourquoi on ne parle jamais de la France comme d'un pays où une centaine de médecins généralistes ont été condamnés par le Conseil de l'Ordre pour avoir fait des signalements? D'ailleurs, de ce point de vue, j'ai beaucoup apprécié que le pape François ait nommé dans la commission pontificale sur ces questions-là le docteur Catherine Bonnet, qui a été condamnée à 9 années d'interdiction d'exercice pour avoir fait des signalements. Et on ne parle jamais du Conseil de l'Ordre, et on ne parle jamais des médecins. Et on s'interroge pourquoi il y a si peu de signalements. Dans l'affaire Doutreau, il n'y a pas eu un signalement de la part des médecins, alors que les gosses étaient hospitalisés. Comment expliquer ça? Quand est-ce qu'on en parle? Et puis on pourra aussi parler des sociétés transnationales, de nos bonnes sociétés du CAC 40, qui, lorsqu'elles ont des filiales, dans, notamment en Afrique, elles se privent pas d'organiser certains loisirs pour leurs cadres.
Voilà, on empêche de signaler, on punit ceux qui parlent. C'est organisé, c'est systémique. Partout où il y a du pouvoir, il y a des mécanismes de protection. Partout. Et face à tout ça, face à tous ces scandales qui éclatent, face à tous ces dossiers qui remontent, comment réagissent ceux qui défendent le système ? Marie Pelletier, grande spécialiste du complotisme, s'il vous plaît, se retrouve face à un dilemme absolument savoureux.
On parle toujours de déconstruire les théories du complot. Hein. C'est un peu la grande chanson depuis 10-15 ans, depuis la première élection de Trump, en fait. Mm-hmm. Depuis que l'anticonspirationnisme a explosé, la grande posture, c'est de dire il faut lutter contre les fake news, il faut déconstruire les théories du complot, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et je la pose à moi aussi, la question. Hein. Je m'inclus complètement dans le questionnement. Qu'est-ce qu'on fait quand, depuis des années, on lutte contre un narratif et qu'on a une histoire qui confirme tous les éléments narratifs? Oui. C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que je rappelais que la posture ici d'humilité, d'une certaine humilité, est quand même, me semble, essentiel.
Et justement, face à cette réalité qui explose, face à ces dossiers qui sortent, face à ces vérités qui émergent, que fait le pouvoir? Eh bien, il serre la vis. Emmanuel Macron et sa dérive liberticide.
Quiconque va rentrer sur les réseaux sociaux, on va vérifier son âge.
De quelle façon?
Comme on l'a fait pour les sites pornographiques. Donc il y a plusieurs façons, parce que c'est exactement la même chose qu'on a fait pour les sites pornos quand on a interdit au moins de 18 ans.
Voilà, contrôle, surveillance, fichage, pour notre bien, évidemment. Pour protéger les enfants, bien sûr. Pas pour contrôler l'information, pas pour empêcher que d'autres Jack Lang, d'autres DSK, d'autres scandales sortent. Et d'ailleurs, parlons-en de Macron. Pascal Praud décrit l'ambiance autour du président.
Je suis génial. Quel génie je suis. Mais vraiment, les autres sont tellement cons, mais moi, je suis tellement génial. Je suis tellement génial.
En attendant, c'est vrai qu'il a pris 4 points dans les sondages suite à la séquence lunettes.
Mais bien sûr,
les lunettes for sure et
Jean-Yves Le Drian,
ça marche, Pascal.
Mais bien sûr, Jean-Yves Le Drian, qui est quand même quelqu'un qui a une expérience politique, qui avait l'air en pamoison devant le discours d'Emmanuel Macron.
Ils sont
quand même un peu de recul, c'est-à-dire que ça nous a pas permis de gagner le Groenland.
C'est une secte. Les gens qui sont autour d'Emmanuel Macron, c'est leur dieu. C'est une secte, je vous assure, vous les voyez, mais ils ont vu la Vierge. Je ne peux pas vous dire autre chose, je les connais. Ils ont vu la Vierge. Et quand on attaque Macron, ils disent « Mais quelle haine vous avez sur le président !»
Une secte, hein. Le mot est fort, mais juste. Un journaliste chargé du suivi de l'Élysée nous révèle d'ailleurs l'état d'esprit du chef de l'État.
Il lui reste 15 mois et il est quand même dans une situation très baroque. C'est jamais arrivé à un président de la Ve République avant lui d'être interdit de se représenter. Ça n'est jamais arrivé. C'est une règle qui est en vigueur depuis 2008. Sauf que Nicolas Sarkozy et François Hollande n'ont fait qu'un seul mandat, donc n'ont pas été concernés par l'interdiction du troisième mandat consécutif. Alors qu'Emmanuel Macron, lui, ça lui arrive, il ne peut pas se représenter. Et ça lui arrive alors que, contrairement à un Mitterrand ou un Chirac en leur temps, il est encore dans la force de l'âge. Il n'a même pas 50 ans. Donc si ça ne tenait qu'à lui, évidemment qu'il se représenterait. Et d'ailleurs, ça le fait enrager, cette règle.
Voilà, il enrage. Parce que pour eux, le pouvoir n'est pas un service. C'est une drogue. Richard Millet, écrivain, pose un diagnostic plus large.
Il me semble que le monde contemporain est régi par quelque chose de satanique. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelque
carrément.
Chose... Non, mais oui, parce que je suis un lecteur de Bernanos, de Dostoïevski et tous ces gens-là, et je crois puissamment que les puissance, les forces du mal sont à l'œuvre.
Voilà, appelez ça comme vous voulez, force du mal, système mafieux, élite corrompue, peu importe le nom, ce qui compte c'est la réalité. Et la réalité c'est qu'il existe un système de protection des puissants qui fonctionne à tous les niveaux. Médias, justice, ordre professionnel, pouvoir politique. Allez, pour la route, un dernier sonore avec Philippe Devilliers qui nous dévoile pourquoi on est encore très loin d'en avoir fini avec Epstein.
Tout le monde tremble. J'en connais des gens qui tremblent, mais bon, je ne citerai pas de nom, mais simplement je voudrais dire que ça tremble partout. Parce que ce qui est à venir, c'est du lourd. Là, il n'y a que 10% de documents qui ont été défrichés, qui ont été expertisés.
Jack Lang n'était qu'un fil. Le fil d'un pull tissé de protection, d'omerta et de complicité. Un pull que les chasseurs autoproclamés de fausses nouvelles ne peuvent plus appeler complotisme, puisque les faits sont là. La vérité finit toujours par sortir. C'est long, c'est difficile, mais elle finit par émerger. Voilà pourquoi ils veulent contrôler les réseaux sociaux. Les fils dépassent de partout. Et quand on tire dessus, tout finit par s'effondrer.
Vous copiez !
Voilà, ça faisait longtemps celui-là. Merci Franck. Merci Lisa.
Ligne droite, l'analyse.
Et nous poursuivons avec notre partenaire du jour, Xavier Van Lierd. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Liselotte, bonjour Richard.
Nous sommes également, vous trahissez la surprise avec Richard de Cèze. Bonjour Richard.
Comment surprise. Bonjour Liselotte,
bonjour à tous les auditeurs. Vous allez nous parler des hommes aujourd'hui, Xavier Van Lierd.
Eh bien oui, Liselotte, je souhaite ce matin vous parler de la masculinité, et même plus précisément de la masculinité toxique, voyez-vous. Alors je pense que vous avez déjà tous entendu parler de ce concept, n'est-ce pas ? La masculinité toxique, eh bien je vous la réexplique quand même, c'est cette idée centrale que la masculinité, eh bien que les hommes sont en fait à l'origine de tous les problèmes qui nous pourrissent la vie sur Terre, les violences, les inégalités, le racisme, la guerre, le réchauffement climatique, même les barbecues, vous voyez. Et tout cela ne serait pas tout à fait de leur faute, mais plutôt de stéréotypes masculins auxquels les pauvres devraient se conformer pour être des hommes, des vrais. Si bien que pour que tout aille bien, il ne serait finalement pas nécessaire, comme le croient certains ou certaines plutôt, d'éradiquer les hommes, mais seulement de les déconstruire parce qu'il y aurait en quelque sorte une erreur de montage, un vice de fabrication. Alors j'ai l'air de plaisanter comme cela, mais cette théorie se présente comme une théorie scientifique. La masculinité toxique, c'est un truc sérieux, un truc d'universitaire, avec des critères qui permettent même de mesurer le niveau de masculinité toxique de chacun, si bien qu'il y aurait une échelle de la masculinité toxique. Mais voilà, puisque ces critères existent, d'autres scientifiques néo-zélandais, ceux-là, ont décidé de les utiliser pour évaluer, une bonne fois pour toutes, le niveau de masculinité toxique dans les sociétés occidentales. Et pour cela, ils ont passé à la moulinette quelques 15 000 hommes néo-zélandais au regard de ces critères. Et donc les critères en l'occurrence, eh bien, c'est le sexisme hostile, le sexisme paternaliste, le narcissisme, la valorisation de la domination, l'opposition à la prévention des violences conjugales, une forme d'animosité relationnelle avec les femmes. Et les résultats obtenus, voyez-vous, sont, on publie bien sûr dans une étude universitaire, ne correspondent pas du tout à ce qu'on attendait, ou plutôt ils ne correspondent pas du tout à ce qu'attendaient les militantes néo-féministes. En effet, il en ressort que la masculinité toxique ne concernerait finalement que 10% des hommes, et encore, pour atteindre ces 10%, ils ont compté dans ce groupe 7% d'hommes qui sont dits toxiques parce que juste un peu trop protecteurs et paternalistes avec les femmes. Si l'on s'en tient à la masculinité toxique vraiment hostile, agressive et dominatrice, eh bien on se retrouve avec un échantillon résiduel tout à fait rachitique de 3% des hommes. Plus intéressant encore, le profil le plus fréquent dans la population masculine, représentant 35% des hommes, est carrément atoxique, sans toxicité, sans aucune toxicité, tandis que les 55% d'autres hommes sont, sans être toxiques, ont parfois encore en réalité quelques petits stéréotypes qui ne conviennent pas à l'ère du temps, mais sans que cela rende réellement hostile dans la pratique et les comportements à l'égard des femmes. Donc le premier enseignement est donc que la masculinité toxique est très très peu répandue. Si peu répandue en réalité que les auteurs en viennent même à douter qu'elle existe vraiment. Alors entendons-nous bien. Ils ne disent pas qu'il n'y a pas d'hommes qui se comportent mal avec les femmes. Ils disent d'autant moins qu'ils ont établi qu'il y en avait 3%. Mais ce nombre est si réduit qu'ils en viennent à remettre en cause l'idée que ces mauvais comportements proviendraient de la masculinité. Bah forcément. Si 97% des hommes sont de véritables hommes, mais n'ont pas de comportement toxique, et que seuls 3% en ont, c'est peut-être que le critère qui les mène à être toxiques n'est pas leur masculinité. Alors pour parler avec le langage des sciences humaines, ils en viennent donc à déconstruire à leur tour, non les hommes comme voudraient Sandrine Rousseau et ses camarades néo-féministes, mais à déconstruire la notion de masculinité toxique, parce que voilà, ces mauvais comportements ne résulteraient pas de l'identité masculine, mais de pathologies distinctes, comme par exemple le manque d'estime de soi. Et l'étude démontre que les hommes qui attachent de l'importance à leur identité masculine, voire qui valorisent leur identité masculine, qui ont une haute idée de leur virilité, ne sont pas amenés à avoir nécessairement des comportements toxiques. On peut donc se sentir homme, aimer l'être, revendiquer une certaine virilité, et ne pas être un tyran en puissance. Presque banal, mais enfin, dans l'ambiance actuelle, il devient nécessaire de le rappeler. Et cela signifie même que les valeurs dites masculines, courage, sens de l'honneur, responsabilité, loyauté, ne mènent donc pas mécaniquement à des comportements toxiques, mais même qu'elles peuvent les contenir. Là, ça devient franchement intéressant parce que l'étude en vient à faire du coup l'apologie de l'homme traditionnel. Alors pas directement, on se calme, je vous rassure. Ils font un détour par des recherches qui portent sur le monde latino-américain, où il y a un concept qui est le caballerismo. Le caballerismo, c'est un corpus de valeurs et de comportements masculins tels que le sens de l'honneur, la responsabilité familiale, le respect, la protection de la veuve et l'orphelin, la maîtrise de soi. Je pense que ça vous rappelle tous quelque chose. Ça vous rappelle la chevalerie. Ben, c'est normal parce que caballerismo, en réalité, c'est le mot espagnol pour dire chevalerie. Et donc, le caballero, C'est l'homme qui revitalise et porte haut les valeurs de l'idéal chevaleresque. Le caballero, c'est une sorte d'anti-macho, c'est le contraire. C'est quelqu'un, un homme extrêmement viril, mais qui ne se comporte pas comme une petite guape, mais comme un chevalier. C'est un homme qui retrouve les valeurs de la chevalerie européenne, l'honneur, la loyauté, la retenue, le sens du devoir. Et comme nous sommes en France, et que nous sommes même sur Radio Courtoisie, eh bien, on peut le dire, c'est un homme qui cultive à l'égard des femmes quelque chose qui ressemble à l'amour courtois. Vous savez, cette forme d'amour qui est à la fois faite de délicatesse et de désir néanmoins. Et si l'on en croit les chiffres néo-zélandais, eh bien voilà, il y a beaucoup plus de caballeros que de machos, beaucoup plus d'hommes atoxiques que de profils hostiles. Et cette nouvelle n'est pas neutre. Et il faut la proclamer, et notamment auprès des femmes et des jeunes femmes qui ont tendance à voir dans chaque homme un tyran en puissance, un violeur en puissance, alors qu'en réalité, et à leur prêter des mauvaises pensées ou des projets néfastes à leur égard, alors qu'en réalité, eh bien, il y a de grandes chances qu'elles soient entourées non pas de machos, mais de
braves types,
de braves types et même de caballeros. Et si cette information pouvait contribuer à remettre un petit peu d'harmonie dans les rapports entre les sexes en France et en Europe, eh bien, nous aurions fait œuvre utile. Mmh. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin.
Alors, il faudrait aussi, merci Xavier Valnerd pour cette analyse, il faudrait aussi le dire aux hommes, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent assez perdus au milieu de ces discours. Certains complètement angoissés à l'idée d'être associés à cette toxicité, et d'autres qui, au contraire, sentant qu'il y a quand même un peu d'abus, prennent le contre-pied et se disent « mais en fait, moi, pour cultiver ma virilité, je vais effectivement me mettre à maltraiter les femmes et à cultiver une espèce de virilité, mais qui se retrouve complètement déconnectée ». C'est quelque chose qui se voit énormément aux États-Unis, une fois de plus, ça éclot là-bas. Avec ces hommes qui donc à la fois font énormément de musculation et des barbecues et tout ce que tous les critères les plus caricaturaux et sympathiques pour autant par ailleurs, mais voilà, tous les critères les plus caricaturaux, mais qui se retrouvent quand même dans un rapport super violent vis-à-vis de la femme, voire vulgaire.
Oui, enfin, je pense qu'ils ont un rapport torturé. C'est un effet retour, en réalité, comme souvent. C'est-à-dire, de la même façon qu'un excès de pruderie ou de bigoterie mène, on le voit aux États-Unis aussi, d'ailleurs, pays protestant extrêmement austère, où la sensualité a été souvent gravement déconsidérée, beaucoup plus que dans les pays latins ou catholiques. Le résultat, c'est une frénésie de pornographie en retour. Eh bien, pour ce qui est de la masculinité, je pense que c'est la même chose. Dès lors qu'on ne la valorise plus et qu'on la nie, eh bien, elle revient, mais sous une forme absolument caricaturale et grotesque. Et en réalité, à la fois non pertinente, mais en réalité non virile.
Dans cette masculinité prétendument virile, où il s'agit de conduire des grosses voitures en étant barbu, musclé, tatoué et à passer sa vie à dévorer des côtes de bœuf de 3,5 kg, j'ai l'impression de voir des musulmans qui ne connaissent rien à leur religion, mais qui tiennent absolument à s'affubler d'une barbe et à proclamer du matin au soir qu'ils ne mangent que du halal. Autrement dit, c'est une espèce de masculinité de façade, c'est une masculinité de vitrine, c'est uniquement pour faire en sorte que le corps social vous identifie comme homme, comme si vous n'étiez pas vous-même assez assuré de la chose. Exactement comme ces musulmans qui ne connaissent rien à leur religion, mais qui ne connaissent rien à leur texte, mais qui, par principe, veulent s'afficher comme musulmans en s'estimant avoir fait le job et avoir considéré que, puisque le monde les identifie comme musulmans, ça les dispense par ailleurs de se comporter en véritable musulman, parce que c'est simple de ne pas manger de jambon, c'est un peu plus compliqué de respecter le reste de la loi.
Oui, enfin, cela dit, enfin, on va pas faire une digression sur l'islam, mais vous avez raison sur l'idée, c'est-à-dire que c'est une virilité de pacotille, tout simplement.
Sinon, rien à voir, mais cabale, c'est un mot gaulois.
Ah, très bien, bah, écoute, merci.
Donc, les gens qui disent que cheval est un mot d'origine latine, pas du tout, c'est un mot gaulois, et écous, ça n'a rien à voir avec cabale, voilà.
C'est
important de le signaler.
Oui,
c'est ça. Mais c'est vous nous laissez.
Donc, chevalier et cavalier, voilà.
Bah, chevalier, cavalier, voilà. Cabale, c'est gaulois. Bah, voilà, ça, c'est pas romain. Et revenons sur cette masculinité toxique. Il y a très peu de mots gaulois, hein, parce que comme l'envahisseur romain a fait beaucoup de mal à la langue gauloise.
Et comme je suis un petit peu long, au début, je pensais que vous parliez de la cabale. Alors, du coup, je te dis, qu'est-ce que c'est que cette obsession à venir nous parler de la cabale tout d'un coup?
Ça s'écrit pas
pareil. Je sais qu'on est sur un courtoisie, mais enfin.
On va laisser les affaires en cours ailleurs. Et on est avec cette masculinité toxique vraiment dans ce que la gauche réussit à faire le mieux, c'est-à-dire construire une réalité alternative. Et une fois que cette réalité est construite, la masculinité toxique, le matriarcat, partir en guerre contre l'idole qu'ils ont dressée et le totem qui est maintenant planté à tous les coins de rue et qui, surtout, à chaque fois, permet une réduction du réel. C'est-à-dire, quelqu'un tue sa femme, c'est pas juste que le type est fou ou qu'il a eu un accès de rage, non, c'est parce que c'est un homme. Et du coup, on invente le concept de féminicide.
Exactement. Mais c'est quand même le point clé de l'étude. C'est pas seulement de découvrir que le nombre d'hommes qui sont dans une masculinité toxique, ce qui est déjà un hommage rendu à ce concept un peu foireux, est extrêmement réduit, mais c'est surtout le lien entre l'identité masculine et ses comportements. L'étude, en réalité, du coup, creuse les véritables causes de ces comportements délétères et les trouve de façon finalement assez classique dans une réalité de déclassement social, d'acculturation, de déracinement, tant et si bien d'ailleurs que dans cette étude, il y a une surreprésentation chez les hommes qui ont des comportements toxiques, des minorités ethniques. Ça ne veut pas dire qu'en elles-mêmes, elle serait porteuse de masculinité toxique, mais que, étant composée de gens qui ont été déracinés, coupés de leurs valeurs, etc., eh bien, ils se raccrochent justement à cette imagerie de farce et attrape, et à cette pacotille, puisqu'ils ont d'autant plus de difficultés à cultiver une véritable masculinité que, étant coupés de leur culture et des comportements naturels et des règles spécifiques qui sont celles de leur société, ils sont complètement paumés. Et donc, il se raccroche, semble-t-il, d'après cette étude, à ses comportements de pacotille. Mais en réalité, on peut en dire probablement tout autant des hommes occidentaux qui adoptent ces comportements. Ne sont-ils pas, eux aussi, dans le monde contemporain et plongés dans cet univers où on s'est coupé des valeurs traditionnelles, eux aussi, en quelque sorte, déracinés, paumés et obligés, comme on l'a dit, de se raccrocher à cette virilité de pacotille, puisque la vraie façon codifiée d'être un homme, c'est-à-dire d'être capable aussi de s'empêcher, eh bien, n'a plus cours. D'autant que, en fait, je pense qu'ils sont pris aussi dans une sorte d'injonction contradictoire, puisque l'essentiel des valeurs viriles et de chevalerie repose, on l'a dit, sur une forme de maîtrise de soi, et que par ailleurs, on a une société qui ne cesse de valoriser la pulsion, l'instinct, la spontanéité, la libération de tous les carcans et autres. Bah, si on enlève les carcans, alors certes, l'homme traditionnel était pris d'un certain nombre de carcans, mais des carcans qui aident à se tenir droit, tout simplement, et on le dépouille de ça, il devient à peu près, donc du coup, une espèce de pseudo-bête, et ensuite, on vient lui expliquer que ça vient de sa masculinité. Non, je pense que beaucoup de ces comportements, y compris dans les rapports hommes-femmes, de séduction ou de sérénade, ou dans les rapports sexuels, vient du fait que les cadres ont sauté.
Oui, les cadres ont sauté, et du fait des féministes. Et là aussi, c'est toujours quand même cette espèce de fable perpétuelle où... l'utopiste, le gauchiste libère le réel et après le réel lui revient dans la face. C'est-à-dire, on explique aux jeunes femmes qu'il faut décorréler sexualité et maternité. On explique que la libération de la femme, c'est la capacité à coucher où que ce soit, quand que ce soit, avec qui que ce soit. Et brusquement, les jeunes femmes se retrouvent matière sexuelle livrée aux appétits des hommes à qui on explique, rassure-toi, je ne te demanderai pas le mariage. Je veux juste qu'on couche ensemble. Bah, ok, parfait, la bonne affaire, je le fais. Et après ça, brusquement, c'est absolument honteux, je suis seul, j'ai fait un enfant toute seule parce que je ne voulais pas de Pierre, Paul, Jacques, Ahmed ou Boubacar, mais maintenant il refuse de payer la pension alimentaire. Bah, non, en fait, Boubacar, on lui avait dit, et comme à Jean-Paul et à Frédéric, je ne veux pas de toi. Tu es quelque chose qui empêche ma liberté de s'épanouir. Et brusquement, on explique à Boubacar et à Frédéric qu'en fait, ils auraient dû à la fois comprendre tout ce système libertaire et en même temps, bien sûr, admettre toutes les contraintes que ce système libertaire renie.
Oui, et puis par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais sauf à un passage où vous pourriez laisser entendre qu'en réalité, du coup, cette libération sexuelle et le sexe décorrélé de la maternité, etc., c'était une bonne affaire pour les hommes. Eh bien, en réalité, je ne le crois pas non plus.
C'est une bonne affaire pour les Goujats.
Oui, voilà, c'est une bonne affaire pour la minorité de Goujats, mais tous les autres en souffrent également. C'est-à-dire qu'en réalité, les hommes comme les femmes ont plutôt tendance à vouloir obéir à quelque chose qui est inscrit au plus profond d'eux, c'est-à-dire se perpétuer, et se perpétuer en fondant une famille, en protégeant leur descendance dans un cadre familial. Et donc, on est dans de l'anthropologie de base, en réalité. Les valeurs traditionnelles, en fait, rejoignent tout simplement l'anthropologie. Et tout cet écran de fumée qui était celui notamment diffusés par les néo-féministes et les tenants de la libération sexuelle, eh bien, sont venus perturber le fonctionnement normal et l'accord normal qui devrait présider au voilà, et accoucher d'une forme d'harmonie entre les sexes, qui est pas si compliqué que ça en réalité. Si on s'enlève, si on s'enlève de la tête toutes ces fumisteries, eh bien, l'accord se fait assez normal, à mon avis, assez spontanément. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, les femmes souffrent terriblement, mais les hommes souffrent terriblement aussi.
Cette masculinité toxique, donc, est une construction sociale, renvoie évidemment à toutes les études de biologie. On en a parlé il y a quelques semaines, voire quelques mois, à l'antenne de Radio Courtoisie, dans la matinale, avec le livre de Peggy Sastre, paru aux éditions de l'Observatoire, où elle revenait, en fait, sur les fondamentaux de ce que la recherche biologique actuelle propose. Autrement dit, les hommes existent, les femmes existent, et en fait, les deux sexes sont fondamentalement différents.
Et complémentaires.
Et donc, quand on parle de masculinité toxique, c'est qu'on présuppose en dessous une espèce de modèle unisexe de personne ni chair ni poisson, une espèce d'androgyne parfait. Et en fait, ce serait la culture qui seule aurait produit un type de mâle. Mais non, pas du tout, en fait.
Oui,
c'est la biologie qui produit le mâle, de même que c'est la biologie qui produit la femelle.
Ne soyez pas gouge, laissez parler Liselotte.
Un modèle qui, d'ailleurs,
c'est d'une femme.
Tendrait plutôt à se rapprocher des caractéristiques féminines, parce qu'aujourd'hui, elles sont quand même survalorisées. On a énormément de gens qui commencent à nous expliquer que le monde irait mieux s'il était gouverné par des femmes. Alors, je pense qu'ils n'ont jamais travaillé dans un bureau exclusivement féminin.
Voilà, mais Golda Meir...
C'est ça, et donc on a donc déjà...
Clinton.
Énormément de d'hommes qui se féminisent, et puis cette survalorisation des caractéristiques plutôt féminines, douceur, empathie, comme si donc ce modèle unisexe devait s'en inspirer et serait fondamentalement bien plus vertueux que tout ce qui se rapporterait traditionnellement à l'homme.
Oui, oui, les valeurs dominantes de la société, celles qui sont mises en avant, sont incontestablement aujourd'hui des valeurs plutôt féminines.
Ouais, des valeurs prétendument féminines, parce que là aussi, il y a une espèce de construction sociale.
Je pense pas.
Voilà, dire que les femmes sont douces, j'en appelle à tous les maris, voilà, et je n'en dirai pas plus.
Douces, non, mais on a peut-être plus d'empathie en revanche.
Mais oui,
de capacité à sentir.
Non, alors ce que disent les études scientifiques, c'est que, par exemple, les femmes sont pour la conciliation, alors que les hommes sont pour la vérité. Et ça se retrouve aussi dans les études scientifiques. C'est assez fascinant. Par exemple, quand on propose à des populations étudiantes, avec des hommes et des femmes, et on dit aux femmes, voilà, si vous deviez choisir le fait d'établir une vérité scientifique, quitte à vous battre, évidemment, à coups d'articles scientifiques et de controverses courtoises et de débats... contraint par un animateur, eh bien, vous battriez-vous jusqu'au bout les femmes répondent non, je préférerais en fait aller vers une vérité consensuelle dont je sais bien qu'elle n'est pas vraiment la vérité, mais au moins j'ai établi le consensus.
Vous allez me faire questionner mon identité de genre, Richard.
Voilà. Alors que les hommes, vous êtes un peu modèle Jeanne d'Arc. Voilà. Alors,
merci.
Voilà. Alors, les hommes disent, bah non, en fait, l'essentiel, c'est d'arriver à la vérité. Et voilà. Donc, c'est pour ça que, aussi, quand on parle des vertus féminines, en fait, ce sont les vertus civilisationnelles. Et effectivement, comme la femme recherche plus le consensus, bah, évidemment, elle essaie d'obtenir ce consensus, non pas par la confrontation, mais par l'accueil et la gentillesse. Mais voilà, elles ne sont pas fondamentalement douces, en fait. Elles sont surtout... Elle rejette le combat parce que le combat, en fait, est une source d'ennui. Non seulement on est obligé de ranger la table après sans parler de la maison, voire le royaume, mais voilà. Alors que les hommes disent le combat permet d'établir un cadre, en fait, plus intéressant, plus riche, plus sûr.
Enfin, donc on est quand même d'accord qu'il y a des comportements et des manières d'être qui sont pour les unes plutôt féminines et pour les autres plutôt masculines, et qu'elles sont complémentaires, et finalement...
Moi, c'est le mot douceur, parce que moi, je bosse avec Liselotte.
Ah ouais. Alors, j'en dis comme tout, qu'est-ce que vous racontez?
Vous clignez des yeux si vous êtes méchant.
Donc, voilà, ces comportements sont complémentaires, et c'est vraiment ce qu'il faut essayer d'en retenir. C'est-à-dire que nous ne sommes... La guerre des sexes n'a pas lieu d'être. Nous sommes des alliés. Des alliés face à une vie qui ne sera pas toujours facile. La vie est déjà pleine de suffisamment de défis. Les couples vont y croiser suffisamment d'adversaires et d'adversités pour qu'ils puissent se considérer comme une chouette équipe. Un couple qui peut résister à tout cela et accomplir sa mission, qui est donc celle de la transmission.
C'est ce que vous rappeliez sur les problèmes du célibat. Aujourd'hui, ça vient aussi de cette opposition permanente entre les hommes et les femmes, avec des femmes qui s'imaginent qu'elles seront de toute façon plus épanouies sans hommes dans leur vie.
Exactement, et qui vont finir en réalité, pour la plupart, pour beaucoup d'entre elles, seules. Il y a une célèbre féministe anglaise qui a résumé ça dans un article qui est assez récent, mais auquel je repensais en lisant cette étude néo-zélandaise, où elle expliquait qu'à 50 ans, finalement, elle s'était fait berner par le combat féministe et qu'elle repensait avec beaucoup d'amertume à tout ce à quoi elle avait cru, notamment la guerre contre les sexes, la méfiance envers les hommes, vus comme des machos et pas comme des caballeros. Et elle y repensait à chaque fois qu'à 50 ans, elle réservait seule au restaurant.
Cette étude néo-zélandaise, elle a été favorablement accueillie par la presse néo-zélandaise ou les auteurs ont été immédiatement cloués au pélori?
Elle gêne beaucoup, bien évidemment, tout le dispositif intellectuel des néo-féministes. Alors, eux se replient dans cette idée que les 55% d'hommes ils voudraient lire que les 35% d'hommes qui se comportent parfaitement, ce sont les plus avancés dans la déconstruction, et que les 55% qui sont encore pas parfaits parce qu'il leur reste quelques stéréotypes, eh bien, il faut continuer le ripollinage. Mais en réalité, l'étude répond par avance à cette interprétation en mettant en avant justement la masculinité positive que représente le caballero, le chevalier, celui qui retrouve et qui vit très très bien sa masculinité de façon positive. Donc ce n'est pas du tout un homme déconstruit, c'est au contraire un homme très construit et très droit, en fait. Il se tient droit dans un nombre de principes et qui sont plutôt des principes masculins. Voilà. Mais ça peut faire une conclusion, je pense, non?
Mais j'allais le dire et je surveillais l'heure d'un œil inquiet, mais je crois qu'Éric Doutrebente est déjà avec nous, donc on peut s'arrêter sur cette conclusion, effectivement. Merci beaucoup, Xavier Malnir, d'avoir été avec nous. Voilà, et puis merci Richard De Cèze également. Je remercie les hommes autour de cette table d'avoir été avec nous ce matin.
Et c'est une femme qui décide quand ça s'arrête.
Bah bien sûr, Richard l'a dit, je suis terrible, donc c'est moi qui choisis.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et on poursuit donc avec Éric Doutrebente. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors vous êtes fondateur de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendante, gérant des clients privés. Et cette semaine, vous souhaitez nous parler d'Air Liquide, leader mondial des gaz industriels, assez connu de beaucoup d'investisseurs privés. Pourquoi ?
Alors d'abord, c'est votre serviteur qui a choisi Air Liquide et c'est pas Liselotte qui a choisi Air Liquide, de parler d'Air Liquide aujourd'hui. Bon, petit biais par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure.
J'avoue.
Voilà. Donc Air Liquide, c'est un leader français qui est un des plus grands champions industriels français. La semaine dernière, j'avais fait LVMH. Vous voyez qu'on est quand même sur des choses positives dans ce monde compliqué. En 2025, le groupe a généré 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires en croissance de 2,6%. La marge opérationnelle atteint, elle, 21,5%, qui atteste une bonne rentabilité sur un métier à valeur ajoutée. Air Liquide emploie plus de 66 500 collaborateurs dans 60 pays et sert plus de 4 millions de clients et de patients dans le monde. Donc le groupe est présent partout, de l'industrie lourde à la santé. Alors, quelles sont les applications des gaz industriels? Les gaz industriels produits par, les gaz en général produits par Air Liquide sont principalement l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, l'argon, le dioxyde de carbone, d'autres aussi gaz, et ça élémente plein d'applications, des milliers d'applications. Par exemple, dans l'industrie lourde, ça joue sur la combustion, sur le traitement des métaux, soit dans la chimie. Dans le cadre de la santé, qui est un pôle qui est en croissance, c'est l'oxygène médical, sont les soins hospitaliers. Dans l'électronique et les semi-conducteurs, eh bien, on tombe sur les gaz ultra purs pour, par exemple, fabriquer des puces, puisque c'est un secteur très à la mode qu'on a évoqué récemment via les opérations avec STMicro. Et dans l'agroalimentaire, eh bien, la conservation et l'emballage sous atmosphère contrôlée. Donc, ces gaz sont distribués via des réseaux de pipelines, mais aussi ils sont en vrac cryogénique et en bouteille selon les besoins. Donc Air Liquide, c'est aussi un leader dans un marché très oligopolistique, car le secteur des gaz industriels est dominé par très peu d'acteurs majeurs à l'échelle mondiale. Air Liquide se positionne comme l'un des leaders mondiaux aux côtés de Linde, l'allemand, et Air Product, l'américain, qui crée des barrières à l'entrée importantes et évidemment une concurrence assez limitée. Ce marché est caractérisé par des contrats de long terme, avec des infrastructures coûteuses et des revenus récurrents, notamment via la location d'équipements sur des sites, ce qui offre une certaine stabilité des flux, évidemment des revenus liés au gaz industriel. Air Liquide est souvent considéré comme le deuxième acteur mondial concernant le chiffre d'affaires dans le secteur. Mais on retrouve aussi des belles sociétés de taille moyenne qui restent détenues par des familles, comme l'italien Sol, très investi dans la partie santé et aussi sur le marché turc, et aussi Messer en Allemagne. Donc c'est un marché en croissance soutenu, qui est porté par la demande des secteurs manufacturiers, évidemment de la santé, des semi-conducteurs et des technologies propres. On pense que la croissance devrait être à peu près de 7,5% tirée par des volumes à peu près de 4,5% et des effets prix de 3%. Donc on a une dynamique structurelle favorable à Air Liquide, et car elle renforce les besoins dans gaz industriel, dans les industries clés. Récemment, Air Liquide a justement annoncé l'acquisition de DG Airgas en Corée du Sud. Je l'avais évoqué il y a quelques mois pour dire que les grands groupes français, leaders mondiaux, continuaient d'investir dans le monde. Donc, c'est une opération en Corée du Sud pour 2,8 milliards d'euros qui vise à renforcer la présence sur le marché asiatique qui est en forte croissance. Évidemment, Air Liquide est sur le marché asiatique depuis très longtemps puisqu'il y avait une société cotée qui s'appelait Oxygen d'Extrême-Orient pour les vieux boursiers. Voilà, donc c'est une valeur en forte croissance, et du moins en croissance régulière, et surtout très bien gérée par un manager de qualité.
Alors, Air Liquide a quand même sous-performé le CAC 40 depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous conseillez à nos chers auditeurs, Eric Doutrebente?
Alors, c'est vrai que sur les 5 dernières années, la performance boursière d'Air Liquide peut sembler moins spectaculaire que celle des certains indices, donc CAC 40, par rapport à l'historique. On le voit, cela s'explique en partie par une valorisation déjà élevée, mais comme toutes les valeurs de qualité, évidemment, les valorisations sont toujours bien pricées, bien élevées. Et il y a évidemment les rotations qu'on a eues depuis plusieurs années vers des investissements qui sont jugés plus porteurs, comme l'IA et la défense qui a vraiment monopolisé pas mal d'investisseurs. Évidemment, il y a aussi des conditions macroéconomiques qui sont assez volatiles. Mais malgré tout, l'entreprise continue d'afficher des fondamentaux solides, une croissance des revenus, des marges en hausse, et un signe que la valeur intrinsèque reste intacte, même si le marché boursier, pour l'instant, ne reflète pas cette valeur. Alors, il faut noter que la taille et le modèle d'affaires est pas peu similaire chez Linde, l'allemand, qui est un des leaders. Évidemment, sur longue période, la performance de Linde est même récente et plus importante, car les marges sont de 30%, alors que je vous ai indiqué tout à l'heure que les marges de Air Liquide sont de 21,5%. Donc Air Liquide l'a bien compris et il a mis en place des mesures drastiques pour améliorer ses marges. Donc on peut regarder la performance sur 5 ans décevante, mais on peut regarder aussi la performance sur une plus longue période, sur 20 ans, avec un parcours boursier assez impressionnant. Sur le long terme, la trajectoire boursière d'Air Liquide est vraiment impressionnante. Les performances intègrent les dividendes, montre que l'action a surperformé de nombreux indices et aussi est dans le panier des valeurs assez puissantes. Il ne faut pas oublier qu'Air Liquide est généreux. concernant ces actionnaires, puisque vous avez une distribution d'actions gratuites de 1 pour 10 régulièrement. Évidemment, ce bonus n'est pas reflété quand vous regardez un graphe concernant la liquidité sur longue période. Ces actions gratuites ne sont pas intégrées, donc il faut, ça améliore la performance. Et pour conclure, Air Liquide est une entreprise industrielle française de premier plan, avec des chiffres solides, des applications essentielles de ses produits, une position dominante dans un marché oligopolistique, et des perspectives de croissance régulières sur le long terme. Alors évidemment, on peut remarquer une chose très importante, 35% du capital est détenu par des actionnaires individuels. C'est le record du CAC 40 sur la participation par des investisseurs individuels. Donc, beaucoup de gens ont de l'Air Liquide, soit dans leur portefeuille, soit en nominatif administré dans leur portefeuille, soit en nominatif pur dans le cadre de la société. Et donc, ça, c'est une exception. C'est vraiment un sujet très français, mais surtout lié à Air Liquide. Et il ne faut pas oublier que, comme les actionnaires individuels, c'est important, il n'y a de richesse que d'hommes. Et donc, entre les actionnaires individuels et les 66 000 salariés d'Air Liquide, voilà les éléments importants pour le futur.
Merci Eric d'Outrebente pour cette chronique et donc ces conseils financiers. Si jamais certains auditeurs ont besoin de creuser certains sujets ou ont des questions, on les invite à prendre contact avec Tiepolo ou avec la radio. On vous mettra en relation, évidemment. Merci beaucoup et je vous dis à mercredi prochain.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles, merci d'être avec nous.
Bonjour Liselotte, bonjour chers auditeurs, bonjour Franck.
Alors on en sait un peu plus sur les machinations et les intrigues nouées par celui que Valeur Actuelle appelle le loup de Wall Street et qui fait la une du magazine.
Oui, intéressant d'essayer de comprendre qui se cache derrière le monstre, le cupide, l'homme sans scrupules qui aurait manipulé tant de jeunes filles, tant de princes et d'hommes d'affaires, sans compter la cohorte de gens qui comptent dans le milieu artistique et culturel et même politique. Ainsi, Valeurs Actuelles a mobilisé 7 journalistes pour mener l'enquête des États-Unis à Paris. C'est l'histoire d'un nom devenu à jamais le symbole des déviances d'une élite du culte de la transgression, écrivait A, du soupçon permanent, des thèses les plus folles, du discrédit généralisé d'une époque malade et de l'impossible quête de la vérité. Son nom a été effacé de sa sépulture. Et combien de secrets Jeffrey Epstein a-t-il emporté avec lui dans sa tombe floridienne? Combien attendent encore de ressurgir? Et c'est ainsi qu'on apprend qu'en 1974, Epstein enseigne les mathématiques et la physique dans une école privée élitiste de Manhattan. Pourtant, l'homme ne possède ni diplôme universitaire, ni certification pédagogique. Et un beau jour, une élève fascinée par son professeur le présente à son père, Alan Greenberg, le patron d'une des plus importantes banques d'investissement de Wall Street. Séduit à son tour par le personnage, Epstein, il l'embauche. Et c'est l'engrenage. Epstein débarque dans l'imposante tour de verre en plein Madison Avenue et très vite, ses collègues flairent l'imposture, écrivent à l'heure actuelle. La jeune recrue dépense sans compter, utilise ses relations féminines pour fidéliser la clientèle, bafoue les règles élémentaires de la confidentialité. « Je n'avais pas réalisé que j'étais en train de créer l'un des monstres de Wall Street », confessera plus tard l'un des dirigeants de la banque au New York Times. Et en 81, le voilà qui quitte Wall Street avec quelques millions de dollars pour être indépendant. Montage douteux, opération opaque, zone grise, tout lui convient. Il devient même un temps l'homme de confiance du patron de la Tower Financial Corporation, cerveau de l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire américaine, une pyramide Ponzi titanesque qui fera perdre à ses investisseurs plus de 400 millions de dollars. Epstein continue son ascension, il se rapproche de Leslie Wexner, le milliardaire, roi de la lingerie féminine, dont Victoria's Secret, et sa propre société, la Financial Trust Company, encaissera plus de 200 millions de dollars. Cela commence à intriguer en haut lieu, et le voilà lancé, qui assiste à plusieurs défilés de mode, tout en se façonnant une image de séducteur au cœur des salons mondains et du showbiz. Le voilà philanthrope, éclairé, proche du Parti démocrate, amateur d'art, mécène, bienfaiteur de la Silicon Valley. Et à coup de donation, il tisse sa toile et étend son carnet d'adresses. La toile, on apprend notamment qu'il s'est rapproché d'une Française, Ariane de Rothschild, à la tête de la banque familiale. et pour plus de 25 millions de dollars, il devient son conseiller financier et même son conseiller conjugal. L'étendue exacte de sa fortune a fait l'objet de nombreuses spéculations et le magazine Forbes avance le chiffre de 600 millions de dollars à sa mort. Voilà, vous lirez la suite dans Valeurs Actuelles et c'est passionnant.
Et le coup de gueule de David Lisnard dans le Figaro à propos d'un manuel publié en 2020 par les éditions Nathan destiné aux lycéens qui doivent étudier les sciences de la vie et de la terre.
Oui, alors selon le maire de Cannes, les auteurs de ce manuel seraient déclinistes, malthusiens, car ils placent en tête de liste l'action la plus efficace, je cite, et de loin, pour sauver la planète, celle d'avoir un enfant de moins. Mettre sur le même plan un comportement ou un geste technique et la naissance d'un enfant revient à ne plus envisager la vie comme une promesse, écrit David Lisnard, mais comme une variable d'ajustement. Un être humain n'est plus une personne, une joie, une responsabilité, c'est un flux de carbone à supprimer. Faire accroire à nos lycéens qu'une naissance puisse être néfaste à la planète dans un tel contexte, c'est accompagner un effondrement démographique qui met en péril l'avenir même de la nation. Aucun pays ne peut sacrifier sa démographie, donc son existence, sur l'autel d'un calcul, en l'occurrence faux, utilitariste de CO2. Et ce sont précisément les générations futures qui produiront les solutions aux défis climatiques. Encore faut-il qu'elles viennent au monde. Ainsi, David Lisnard dénonce une écologie de la culpabilisation. L'écologie mérite mieux par la science, renchérit-il, l'investissement massif dans l'innovation et le droit international pour combattre ce qui pollue, transformer nos systèmes énergétiques, protéger la biodiversité, c'est-à-dire la vie, y compris humaine. Voilà, à lire dans les pages débat du Figaro.
Et sort aujourd'hui le film événement de la réalisatrice espagnole Alaoda Ruiz, De a soi les dimanches.
Oui, alors Le Parisien, Famille Chrétienne, Télérama, Elle, Le Point, toute la presse est unanime. Ce film est une vraie réussite. L'histoire d'une adolescente de 17 ans qui annonce qu'elle souhaite entrer dans les ordres au grand étonnement de sa famille. Si le père semble se laisser convaincre par les aspirations de sa fille pour Maïté, la tante d'Ainara, cette vocation inattendue est la manifestation d'un mal plus profond. C'est un sujet original, traité avec force et délicatesse, selon Eric Neuhoff. Un petit miracle du cinéma et une vraie source de gratitude, selon Famille Chrétienne. La réalisatrice a donné un entretien à Olivier Delcroix dans Le Figaro et elle dit ceci. « Avec les dimanches, j'ai voulu retracer la trajectoire d'une famille autour du thème de la vocation religieuse et en mesurer l'impact au quotidien. Cette spiritualité qui transparaît chez le personnage d'Ainara, joué entre parenthèses par Blanca Sorosa, qui est son premier rôle à l'écran, est le sujet fondamental du film. J'ai assumé le fait de ne jamais expliquer ce qu'était la foi. Mon objectif était centré sur la manière dont vivent les gens qui possèdent la foi. Cette chose-là ne se verbalise pas, c'est quelque chose qui vous renverse. La caméra peut pourtant l'attraper et le transmettre aux spectateurs grâce au jeu et à la conviction des comédiens. Et je vous invite à regarder la bande-annonce qui donne vraiment envie de voir le film. Et puis j'en profite, Liselotte, pour dire un mot à propos de cinéma, à propos de Philippe-Henri Rambaud, vous savez, qui a 37 ans, qui anime sur Radio Courtoisie le libre journal du cinéma, et qui vient de publier son premier livre, « Les 100 films policiers français », à voir absolument chez Mareuil Éditions, c'est 366 pages, hein, 22 euros, et d'ailleurs il a donné un entretien dans le dernier numéro de Famille Chrétienne. Et alors que Théophane Leroux lui demande si certains films ne poussent pas à idéaliser les truands, voire inciter à la violence, il cite Barbet d'Aurevilly, « Une peinture est toujours assez morale quand elle est tragique et qu'elle donne l'horreur des choses qu'elle retrace. » Et Rambaud d'ajouter, « C'est-à-dire que l'on pouvait peindre tous les vices à condition de bien faire comprendre qu'ils en sont. » Voilà, ça sera la morale du jour, ma chère Liselotte.
Merci Gilles pour cette chronique, cette revue de presse. Et je vous dis à demain pour la dernière de la semaine.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, Liselotte Dutreuil.
Et donc, comme je vous le disais aujourd'hui, chers auditeurs, pas de rediffusion. On poursuit avec Jonathan Sturel, qui a gentiment cédé sa place pour le débat de ce matin sur la fin de vie, qui est d'ailleurs à retrouver sur YouTube dans le courant de la journée, si jamais vous l'avez manqué. Pour le moment, donc, Jonathan Sturel, bonjour. Merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de me recevoir. Je pense qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien.
Tout à fait.
Eh bien, dans la continuité de l'un des sujets que vous venez d'évoquer avec votre précédente invitée, l'affaire Epstein, ça m'a rappelé la nécessité de faire un point de rappel sur ce qu'est le complotisme, ou plutôt ce qu'est l'anticomplotisme. Parce qu'on parle beaucoup des complotistes, mais beaucoup plus rarement des anticomplotistes, et c'est à mon avis une erreur, car il faut absolument être clair et sans équivoque sur le fait que l'anticomplotisme est devenu une arme politique, une arme rhétorique et même une arme judiciaire, dirigée contre des individualités, contre des groupes, contre des influences politiques, désignées comme adversaires du régime, et que quiconque par conséquent prétend ajouter ses propres forces à la lutte contre le complotisme ne sert finalement qu'un objectif concret, qu'il le veuille ou non, c'est la perpétuation du statu quo dans lequel nous enferme le régime, pour nous interdire strictement de pouvoir en sortir. Je vais commencer par préciser qu'évidemment jamais aucune définition claire, intelligible et compréhensible du complotisme n'est donnée par ceux qui déclarent vouloir le combattre. Les limites de cette définition ne sont jamais clairement établies. Un flou est volontairement entretenu de manière à pouvoir coller cette étiquette avec le plus de souplesse possible, selon les besoins du moment. Et bien sûr, tout ceci fait partie de la stratégie, car moins un concept est clair, plus il est facile de l'étendre à volonté, de le tordre pour le faire coller aux nécessités du moment. Or, qu'est-ce que l'anticomplotisme militant et politique ? Savoir que le système utilise, à échéance régulière, des propos anecdotiques qui sont insignifiants en termes d'influence politique, qui n'ont aucune existence sur le spectre électoral, ne pesant pour rien dans la décision électorale des Français, n'ayant aucun soutien ni relais dans la grande presse, dans les médias ou dans les institutions. Et à partir de ces propos marginaux, montent des affaires en épingle pour faire croire que la République, que la paix civile, que les institutions, que la démocratie et même que l'intelligence sont menacées par l'obscurantisme. Souvenons-nous que le système utilise cette carte magique chaque fois qu'il a besoin de discréditer un mouvement qui lui déplaît. Pendant les manifestations contre la folie du Covid, une femme, dont on se souvient, Cassandre Fristo, avait exhibé une pancarte sur laquelle plusieurs noms de responsables politiques avaient été inscrits, tous accusés d'avoir joué un rôle dans l'instrumentalisation à des fins politiques de cette pandémie. Alors, toutes les personnalités citées sur cette pancarte n'étaient pas juives, mais enfin certaines l'étaient, et cela avait suffi pour que la classe médiatique et politique s'empare de cette anecdote pour jeter le discrédit sur l'ensemble de la contestation anti-pass sanitaire. Voilà un exemple concret des méthodes de l'anticomplotisme. Prendre un fait divers et le monter en épingle avec une malveillance et une énergie telle qu'ensuite plus personne dans le spectre médiatique et politique n'ose prendre le parti d'une protestation désormais amalgamée au conspirationnisme antisémite. De cette façon, le système assèche l'adversaire en le privant des soutiens politiques et publics dont il aurait eu besoin pour s'imposer comme une force en mouvement susceptible de faire trembler l'édifice du régime. Or, soyons clairs, il n'existe aucune menace complotiste en France. Il y a quelques complotistes purs et durs, c'est certain, et sur les réseaux sociaux principalement, dont l'influence politique réelle est inexistante, même s'il est apparemment bruyante, et dont l'activité politique est stérile puisqu'elle n'emporte pas la conviction populaire, c'est un fait. Aussi, chaque fois que vous entendez quelqu'un se plaindre des complotistes, soyez absolument certain qu'il s'agit soit d'un monumental faquin, soit d'un type qui est payé pour cela, soit d'un agent corrupteur qui travaille à fournir au système des outils pour se sauver les miches, pour fuir ses responsabilités réelles et finalement pour se perpétuer en détournant l'attention sur des hommes de paille. Or, peu importe que l'on soit personnellement et intimement agacé par l'existence d'une tendance convaincue de pouvoir tout expliquer par des complots, peu importe qu'il soit en effet impossible de discuter calmement avec un vrai complotiste pur et dur, et j'en témoigne personnellement, car j'ai vu certains de ces spécimens sur les réseaux sociaux et ils sont effectivement insupportables d'arrogance, convaincus d'avoir réponse à tout malgré les failles évidentes qui nourrissent leurs démonstrations. Mais la réalité est qu'on se fiche bien d'être personnellement et intimement agacé par cette arrogance, car nous ne sommes pas là pour gérer nos humeurs individuelles ni pour imposer nos agacements sensibles aux autres. Or, je vois des gens, y compris des gens de nos milieux, se lamenter en permanence à ce sujet, dire toutes les semaines que les complotistes sont des idiots, et c'est bien souvent pour nous dire en filigrane qu'ils sont, eux, très intelligents et très au-dessus des agitations de la plèbe, des gueux, du populo stupide et ringard. C'est le moment de préciser ici que l'anticomplotisme politique et militant est un aristocratisme partagé par des gens qui, la plupart du temps, surestiment très largement leurs propres capacités intellectuelles et se font, à propos de leur prétendue stratégie politique géniale, des idées qui n'ont rien à voir avec la réalité. Avant tout, ce sont des fanfarons qui communient tous dans le même mépris social pour le petit peuple qu'ils préfèrent moquer et critiquer au lieu de le comprendre. Alors, bravo messieurs, la République des pourris qui a conduit la France dans ce désastre vous remercie de lui mâcher le travail et de l'aider à continuer. Or, ce n'est pas ce que devraient faire des gens qui prétendent s'occuper du fait public et politique. Nous sommes là pour sauver ce qui doit l'être. Et ce sauvetage passe par la désignation de l'ennemi et par le déploiement de toutes nos forces pour le combattre et le faire chuter. Cet ennemi utilise ses propres méthodes, pour tuer politiquement toute contestation. Et l'une de ces méthodes consiste à entretenir le mythe d'une menace complotiste afin de pouvoir y associer un jour ou l'autre quiconque est susceptible de faire trembler l'édifice du régime, et ce, dans le but de le faire neutraliser ensuite par l'ensemble des puissances actives de ce pays, politiques, médiatiques, institutionnelles, bourgeoises et militantes. Lorsque le système désigne un complotiste, soyez certain qu'il désigne en réalité une cible pour exciter la meute médiatico-politique qui d'ailleurs ne demande pas mieux que de pouvoir poursuivre ce vilain de sa vindicte, ce qu'elle fait là-bas aux lèvres, comme font les chiens de chasse qui obéissent à des ordres de chasse et qui reviennent vers leur maître l'air satisfait, fiers de ramener le lièvre inanimé en remuant la queue devant la perspective de quelques papouilles bien méritées. Alors, que des acteurs et des agents de ce système se prêtent à cette mascarade n'est pas étonnant, et c'est même normal puisqu'il en va de leur survie à tous. Les Tristan Mendès France, les Julien Pin, les Raphaël Antoven, les Caroline Fourest, Rudi Reichstadt notamment s'abaisse à cette besogne minable parce que ce faisant, ils servent un système qui les fait vivre. Ils sont liés à ce système et le défendent, et finalement, c'est bien naturel. La dénonciation du complotisme devient beaucoup plus surprenante lorsqu'elle émane de nos propres milieux. Et Dieu sait qu'il se trouve dans nos milieux quelques-uns que l'on voit désormais attaquer plus souvent les complotistes que Macron ou le système. Ceux-là, je le sais, je les observe, agissent pour prendre la pause, pour se distancer des gueux qu'ils associent désormais aux perdants, et pour se faire bien voir des gens qu'ils devraient plutôt combattre de toute leur force, au lieu de vouloir les charmer, sans doute pour se faire délivrer un jour le fameux certificat symbolique de bonne conduite qui vous ouvre des portes et des perspectives. Or, quiconque dans nos milieux s'associe à cette chasse aux sorcières anti-complotistes est soit un monumental faquin, soit il est payé pour cela, soit il est un agent corrupteur dont les efforts, en dernière analyse, serviront toujours plus nos adversaires communs que nous dans la grande bataille que nous avons commencé à nous livrer, dont l'issue décidera de la survie ou non de ce que nous sommes. Pour terminer, ce pénible constat m'oblige à rappeler cette règle de prudence bien connue, mais hélas aussi bien souvent oubliée, à savoir qu'il y a, hélas, des amis dont il faut se méfier, et sans doute même parfois encore plus que de nos ennemis. Je vous remercie.
Merci Jonathan Sturel pour cette chronique. Et on a environ 10 minutes pour en discuter. Vous avez vous-même fait le lien avec l'affaire Epstein. Je pense que c'est une belle leçon justement pour toute cette tendance anti-complotiste, puisque pendant des années, précisément, on nous expliquait que tous ceux qui dénonçaient ce genre de réseau pédophile étaient des complotistes qui voyaient le mal partout, qu'ils avaient l'esprit mal tourné. Et donc voilà, on a nourri tout ce discours-là jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Et là, on réalise qu'elle dépasse même ce que pouvaient prévoir ceux qu'on taxait de complotistes pendant des années. On a hier sur Radio Courtoisie... on se plonge depuis maintenant quelques jours dans ces dossiers Epstein. Dès que de nouveaux documents sont déclassifiés, on fait l'effort d'aller voir ce qu'on peut y trouver. Et donc là, bien sûr, le dernier élément en date, c'est ce fameux Daniel Syad, qui donc serait le rabatteur de Epstein. Et donc, il signe ses mails, par exemple, en expliquant... tu as ma parole de juif berbère. Et c'est des choses qui paraissent tellement colorées et tellement hallucinantes que je pense que si à 5 ans, quelqu'un... Enfin, déjà, si nous avions pris le risque de sortir une telle information ou si quelqu'un simplement en avait parlé sur les réseaux sociaux, effectivement, on serait passé pour des clowns. Je pense que nous, en tant que médias, on aurait pu avoir des procès. Et là, la vérité éclate. Donc, effectivement, peut-être dans ce monde de fous aussi, toujours se dire que face à une information qui semble hallucinante, on peut se rappeler qu'en même temps, nous sommes entourés de fous, justement.
Effectivement, et d'ailleurs l'attitude d'un certain nombre des agents et des acteurs de ce système, dont j'ai cité un certain nombre de noms tout à l'heure, les Julien Pin, les Tristan Mendès France, etc., consiste à dire aujourd'hui, les affaires Epstein, le dossier Epstein, finalement c'est pas aussi important et aussi large que ce que les complotistes disaient, donc finalement, circuler, il n'y a rien à voir. Le plus grave étant qu'il y a, j'en reviens à mon sujet de chronique, c'est qu'il y a dans nos propres milieux également des gens qui ont commencé à inciter les autres à se désintéresser de cette histoire en disant « circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas du tout aussi grave que ce que les complotistes disaient ». Donc nous nous retrouvons avec des gens qui, dans nos milieux, relaient exactement le même discours qu'un Julien Pin ou qu'un Tristan Mendès France. Et je pense que c'est une erreur catastrophique en ceci que la promesse démocratique voulait que dans nos sociétés occidentales et éclairées, le peuple fasse la loi chez lui et qu'il soit représenté par des membres issus de lui-même pour accéder à des fonctions. Or, ce que nous avons vu depuis un certain nombre de temps, c'est se mettre en place une forme d'aristocratie, une forme d'élite qui a rompu avec le peuple. Et lorsque le peuple proteste, gronde un petit peu, cette aristocratie au pouvoir qui n'a absolument pas l'intention de rendre ce pouvoir au peuple et qui veut le garder aussi longtemps que possible, utilise un certain nombre d'artifices pour se maintenir au pouvoir. Nous avons parlé du principal d'entre eux, c'est-à-dire le complotisme, mais il y a aussi une autre accusation qui d'ailleurs est liée au complotisme, c'est le populisme. Dès l'instant que le peuple commence à se méfier de ses élites, on appelle cela du populisme, comme si le peuple avait tort de se méfier des élites et que c'était déjà du conspirationnisme et de penser que les élites pensaient d'abord à elles plutôt qu'au peuple. Or, ce que nous voyons avec l'affaire Epstein, c'est qu'il existe une organisation qui est une organisation systémique, dans laquelle se retrouvent des gens de cette fameuse élite. Vous savez, ce sont ces grands personnages de la finance, de la culture, de la politique, dont on découvre, dont on savait, dont on avait l'intuition, mais dont on découvre maintenant factuellement les preuves, qu'ils se réunissent parfois dans des endroits insolites pour faire des choses parfois insolites, et que ces gens, lorsqu'ils sont « démasqués », entre guillemets, pour se défendre, vont accuser ceux qui les démasquent d'être des conspirationnistes, des complotistes, finalement évidemment des antisémites, parce qu'à la fin on en revient toujours à ça.
Bien sûr.
Et vous avez des gens qui, dans nos milieux, alors qu'ils devraient pousser au maximum pour que cette affaire Epstein fasse tomber le plus grand nombre de gens possible, parce que les gens dont on parle sont des gens qui commandent aux destinées de nos sociétés depuis des dizaines d'années, et dont on découvre aujourd'hui qu'ils sont pourris jusqu'à la moelle. Or, je veux bien croire à titre personnel qu'un responsable politique puisse avoir une action publique bienveillante et réellement soucieuse de l'intérêt commun et de l'intérêt du peuple, en ayant lui-même des vices personnels qu'il est incapable de contenir dans sa vie privée de manière très secrète. À l'échelle individuelle, je pense que c'est possible. Mais là, on découvre que c'est carrément systémique. C'est qu'il y a dans toutes les sphères institutionnelles, politiques, financières, culturelles, des gens qui nous prennent de haut depuis des années en nous appelant populistes, en nous appelant complotistes, etc., s'organisent en réseau pour mener une vie dissolue. Et je ne crois pas qu'une élite dont les membres partagent à ce point des vices aussi tortueux soient des gens à qui on peut faire confiance pour résoudre les problèmes du peuple. Donc il y a une rupture qui existe, une rupture qui est quasiment une rupture anthropologique, et il faut absolument pousser à cette rupture. Il faut absolument que le peuple comprenne qu'il est dirigé par des gens qui, de manière systémique, organisée et réseautée, se liguent contre lui. Et quiconque aujourd'hui prétend nous dire que, en fait, le dossier Epstein ne révèle rien de particulier sous prétexte qu'il ne révèle pas de choses aussi sensationnalistes qu'on les attendait, et qui prétend nous dire circuler, il n'y a rien à voir, comme on le voit faire dans les médias aujourd'hui, avec des hommes de paille qui sont allumés à droite à gauche, en nous disant non, mais en fait, Epstein, c'est plutôt lié à la Russie, mais sans jamais vraiment nommer le problème, qui est que les élites s'organisent pour mener des vies dissolues. Et lorsque le peuple s'en rend compte et commence à gronder, on le traite de complotiste et on le traite de conspirationniste et de populiste, etc. Tout cela doit nous inciter absolument à aller vers la rupture, le grand clash, si vous me permettez cet anglicisme, vers la rupture. Il faut absolument aller vers la rupture avec ces élites. Il faut que ces élites, de manière systémique et généralisée, s'écroulent. Et le dossier Epstein, l'affaire Epstein, tout ce que l'on est susceptible de révéler grâce à cette affaire, est de nature à nous aider à faire tomber ces fous. Alors, quiconque aujourd'hui, qu'il soit du système ou qu'il soit prétendument anti-système, nous dit qu'en fait, il n'y a pas d'affaire, que c'est une non-affaire, qu'il faut passer à autre chose, est un traître aux destinées du peuple. Et lorsqu'ils sont de nos propres milieux, il faut les combattre comme ils sont et pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des traîtres qui ne sont là que pour servir les intérêts du système que nous sommes supposés combattre avec eux. Donc, je suis très en colère contre ces gens-là. Ces gens-là, s'ils m'écoutent, se reconnaîtront évidemment. Et il faut absolument faire ce que je dis à la fin de ma chronique, la dernière fois de cette chronique, de se méfier de certains amis encore plus que de nos ennemis. Parce que Julien Pin ou que Tristan Mendès-France tiennent ce discours ne m'étonne pas, oui. Ne me choque pas, et à la limite c'est normal, mais au moins nous avons un adversaire qui est clairement identifié. Nous avons quelqu'un qui nous dit « circuler, il n'y a rien à voir, les gueules, le populo, continuez à retourner, à jouer à vos affaires de petit peuple et laissez les grands faire de la politique ». Ça, c'est normal que lui le dise. Mais que des gens de chez nous le disent aussi, c'est très problématique. C'est très problématique et il va vraiment falloir un jour faire un bilan de nos propres milieux, de savoir qui mérite encore d'appartenir à ces milieux, qui mérite qu'on les appelle encore nos amis et qui ont déjà fait suffisamment de mal ou tenté de faire suffisamment de mal pour que l'on puisse enfin commencer à considérer qu'ils ne sont plus du tout de nos amis.
Oui, d'autant plus que la motivation première, souvent vous l'avez dit, c'est de se donner une sorte de d'autorité intellectuelle et de
Il y a une forme de snobisme, finalement, de la part de ces gens-là, qui, en prenant quasi systématiquement, d'ailleurs, hein, le contre-pied de la droite sur ce type de sujet, se disent « Bah, haha, regardez, je prouve que moi, j'ai un esprit vraiment libre et qui s'affranchit de tout ce que spontanément on pourrait penser. » Or, il apparaît que dans certains cas, il est assez sain de se laisser aller à ce que spontanément on peut éprouver. Et en l'occurrence, dans l'affaire Epstein, écouter la colère, le dégoût, et puis, comme vous l'avez dit, la volonté de rupture qui est censée jaillir dans les cœurs sains, c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas nécessairement une preuve de bêtise ou de naïveté, c'est plutôt justement une preuve d'esprit sain.
Ben oui, c'est une preuve d'esprit sain, mais vous avez raison, effectivement, de dire que les gens dont on parle depuis tout à l'heure, vous avez utilisé le mot snobisme, c'est un équivalent ou un synonyme de celui que j'avais utilisé dans ma propre chronique, mais qui veut dire exactement la même chose, une forme d'aristocratisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont convaincus et qui ont un besoin, entre guillemets, vital, existentiel, égotique, de se démarquer, de se singulariser en permanence des tendances qui mettent leur propre milieu en mouvement. Et j'ai des noms en tête, je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas mettre la station en défaut avec qui que ce soit, mais j'ai des noms en tête que je vois depuis un certain nombre d'années, déjà à l'époque du Covid, être beaucoup plus proche de Véran que de nous, à l'époque, depuis la guerre en Ukraine, d'être beaucoup plus proche de Macron que de nous. Or pourtant, nous ne sommes pas des illuminés, nous ne sommes pas des pro-russes comme ils nous appellent à longueur de temps. D'ailleurs, ils nous appellent des pro-russes exactement comme Benjamin Haddad nous appelle des pro-russes. Donc nous avons des gens qui sont à l'intérieur de nos milieux, qui veulent absolument nous démontrer à quel point ils sont meilleurs que les gens de leur milieu, peut-être parce qu'ils ont des velléités, des
complexes,
des intentions de séduire des gens qui pourraient leur ouvrir des portes que nos propres milieux ne sont pas capables pour le moment de leur ouvrir. Peut-être que des gens qui ont des ambitions professionnelles, financières, etc., et qui se sentent un petit peu à l'étroit dans nos milieux, parce que nos milieux, pour l'instant, sont un milieu de contestation. Donc, nous n'avons pas accès aux institutions de la même manière que les gens d'en face. Nous n'avons pas accès aux mêmes facilités qu'eux. Et il y a peut-être des gens dans nos milieux qui aimeraient avoir accès à ces facilités et qui ont compris que pour y avoir accès, il fallait séduire des gens et qu'il fallait, pour les séduire, se démarquer de gens comme nous. Et donc, je déplore vraiment que ces choses arrivent, mais ce que je déplore encore plus, c'est que des gens dans nos milieux n'y voient rien et continuent de considérer que les gens dont on parle sont des gens de chez nous. Or, des gens qui ont rallié le récit du Covid, des gens qui ont rallié le récit sur la Russie et l'Ukraine, des gens qui aujourd'hui rallient le récit sur l'affaire Epstein, etc. À un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce qui continue de nous unir à ces gens? Il y a des gens qui continuent de vendre leurs livres dans nos milieux tout en passant leur temps, le reste du temps, à critiquer ces milieux-ci, mais qui reviennent dans ces milieux-là dès qu'ils ont un livre à promouvoir et qu'ils le font. Et lorsque le livre aura été bien vendu et que le stock sera épuisé, ils recommenceront à avoir des positions tout à fait hostiles contre leur propre milieu jusqu'au moment où ils auront un nouveau livre à promouvoir. Et dans ce cas-là, ils reviendront faire la tournée de nos propres médias jusqu'au jour où ils auront enfin accès au plateau de LCI et auquel cas la rupture avec nous sera entièrement consumée. Eh bien, vivement que ça arrive, bon débarras, que les oui soient des oui, que les non soient des non, que chacun tienne ses positions, qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et enfin, on pourra avancer clairement sans avoir à nous coltiner des gens que l'on prend pour nos amis, mais qui en fait nous retardent dans l'évolution, dans la progression de nos propres combats.
Oui. Au moins, cette affaire Epstein peut permettre une première prise de conscience, je pense, sur ces sujets-là, et voilà, peut-être permettre de faire le tri. Merci beaucoup, Jonathan Sturel, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté de décaler votre créneau de chronique. On était ravis de pouvoir vous entendre. Et puis, je vous dis à mercredi prochain.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Lise-Lotte Dutreuil.
Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous ce matin. Maëlys Clauzel est en reportage. Si on peut commencer à s'étendre sur le territoire, c'est grâce aux donateurs de Radio Courtoisie. Donc rejoignez l'aventure.
Voilà, très rapidement car nous sommes très en retard. soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne. Merci d'avance.
Merci chers auditeurs. Quel sera le programme du jour?
Restez bien avec nous dans un instant. Un art de vivre à la française d'envoi au chapitre d'Anne Le Pape. À midi, le libre journal de la liberté de penser de Clara Schneider. À 17h, le RC Mag de Jean-Étienne Poza. 17h30, Restons courtois avec Arthur de Vatrigan. Aujourd'hui, 19h30, le libre journal de la résistance française dirigé par Nicolas Stocker. 21h30, le libre journal des débats de Charles de Meyer. Et puis, à 23h, en compagnie de Claudia, votre soirée musicale, musique à la cour du Roi Soleil aujourd'hui.
Un beau programme et nous on se retrouve demain 7h au micro d'Alexandre de Galzin.
Bonne journée à tous et à demain.